vous êtes sur l'antenne Radio Galère 88.4, pardon. Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices. Vous allez suivre l'émission Actualité algérienne qui sera réservée à ce qui se passe en Algérie, à toutes les manifestations, comme tous les vendredis et toute la semaine, qui se déroulent toute la semaine depuis 8 mois. Voilà, donc l'émission va débuter dans un petit moment. Nous vous demandons de nous appeler si vous avez envie d'intervenir au 04 91 08 28 10. Nous attendons nos invités et en attendant, nous allons passer quelques musiques. Et merci.
Voilà, Radio Galère 88.4, il est 18h13 minutes. Hein, donc l'émission Actualité algérienne qui débute là à l'instant. Merci Amal d'avoir patienté et tous nos amis là qui arrivent. Alors, de quoi va-t-on parler? Bien sûr, de l'actualité algérienne, une actualité toujours riche. L'évolution de la situation est telle que nous sommes obligés de se remettre en cause à chaque fois. Hein. Donc, ça passe pas. Donc, dans ma réaction, donc d'ici 18h30, tu te mets de ce côté d'Ahmed, comme ça, on va entendre. Et puis, à partir de 18h30-35, nous avons un invité, hein, nous avons un invité qui nous attend là, qui est arrivé au même titre que, en même temps que nous, là, hein, donc on va les cuisiner comme on le dit, par rapport à la situation. J'en veux d'ici 19h, 18h30, 18h35 qu'on parle de deux choses essentielles, hein, qu'on va essayer d'évoquer deux faits majeurs de la semaine. Un premier fait majeur qui fait honneur à l'Algérie et au peuple algérien dans la mesure où il y a ce qu'on appelle un renouveau avec l'histoire, c'est la prestation ou bien la non-prestation de monsieur Lakhdar Bourgaal, Moudjahed Lakhdar Bourgaal, devant le juge. Donc, tu vas nous en parler, Mustapha. Et donc, c'est une véritable, ce qu'on appelle un véritable passage de flambeau entre une génération nouvelle à qui on a envie de faire oublier son histoire et un monsieur qui est là, qui représente réellement cette histoire-là. Dans un second temps, un point, c'est l'effet inverse, hein, l'effet miroir, c'est la prestation, la pièce ou l'avilissante prestation pour le peuple algérien de Cheikh Abdelkader Ben Salah devant un président Poutine tout souriant, avec un sourire narquois, histoire de dire mettre la baliche, hein. Donc, et ça, c'est quand même quelque chose qui permet de nous dire que nous avons à la tête de cet État algérien des docteurs en sciences, la gaffe. Est-ce la gaffe? Parce qu'on ne fait que dans les gaffes, dans les bourdes. À chaque fois que quelqu'un parle, il te balance quelque chose. Le gars de Salah, il te dit ceci. Il fait quelque chose d'autre. Et monsieur le président, par intérim, la même chose. Voilà. Alors, Mustapha, nous allons commencer par, je te disais, mardi passé, donc c'était mardi, qu'il y a eu présentation devant un juge d'instruction de M. Lakhdar Bourgaal. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, micro rouge.
Écoutez, franchement, on ne s'est pas vu depuis dimanche dernier. On ne s'est donc pas concerté. Et je suis venu avec un petit bout de papier où j'avais dit qu'il y avait eu deux éléments majeurs cette semaine. Et je vous assure qu'on ne s'est pas concerté. Sauf peut-être qu'on a inversé. Moi, je suis encore sous le choc de la prestation de notre, entre guillemets, président devant un Poutine. J'ai utilisé exactement les mêmes qualificatifs que toi. Devant un Poutine, si on est gentil, on va dire qu'il était narquois. Ça, c'est lorsqu'on veut être gentil. Si on veut être méchant, il était dédaigneux. Et cela, pour nous, en tant qu'Algériens, Moi personnellement, je l'ai ressenti comme une grande honte devant ce personnel politique au sommet, qui est d'une médiocrité affligeante. Ils ne veulent pas partir alors qu'ils sont d'une médiocrité affligeante. Je ne dirai qu'un seul mot. Comment peut-on se regarder dans une glace après une telle prestation? Je viens de chez moi où j'ai écouté comme tous les vendredis.
Tu peux commencer par ça, hein?
Oui, je vais pas. Tout est dit, tu vois, dans la prestation de Ben Salah. Donc, je vais pas m'éterniser dessus. Je dis que moi, je l'ai ressenti comme une humiliation. J'ai passé comme tous les vendredis après-midi, l'après-midi, devant une télévision bien connue, qui malheureusement n'aimait plus vers l'Algérie pour les raisons que vous connaissez. On peut en parler aussi. Ça fait partie des thèmes que je souhaiterais qu'on aborde. Et les Algériens se sont déchaînés, et ils ont ressenti tous, comme moi, comme vous tous, je suppose, la honte, l'humiliation qu'on a subie d'avoir un tel représentant. C'est indigne d'un sous-vice-consul je ne voudrais pas citer un pays, je ne vois pas de pays où la médiocrité est aussi importante. Le deuxième point, je suis là aussi encore tout à fait en symbiose avec toi, c'est Monsieur Bourga, Cheikh Bourga, comme on l'appelle maintenant. C'est comme ça que l'appelle, et vous savez que chez nous, Cheikh, c'est un synonyme de sagesse, de maturité, c'est un titre très honorifique, beaucoup mieux que Monsieur le Président provisoire Ben Salah. On ne peut pas commenter. Il a tout dit en une phrase. Vous êtes un fonctionnaire qui obéissait à un pouvoir illégitime, je ne vous reconnais pas et donc je ne vais pas répondre à vos questions. Tout est dit en une phrase. Donc, je crois qu'il, par cette phrase, il a donné du baume au cœur, il a donné de l'enthousiasme à tous nos concitoyens qui ont encore continué, aujourd'hui encore, à défiler en masse et encore. Ce n'est pas de la démagogie, ils ont défilé encore en masse et dans toutes les wilayas d'Algérie. Voilà ce que je pouvais dire pour ça. Si on a 5 minutes après notre invité, peut-être qu'on pourra parler de certaines choses comme la censure des chaînes de télévision qui était un peu d'oxygène pour les Algériens. Je voudrais aussi qu'on parle d'une action j'aime pas beaucoup ce mot, des services de sécurité qui sont en train de faire une opération de je sais pas si le mot existe, de salissement. Ils sont en train d'essayer de salir tout ce qui est un peu beau dans notre pays, des écrivains, des journalistes de qualité, par des procédés, mais alors d'une indigne. Vous avez compris ce que je veux vous dire. Mais il y a quand même des points d'optimisme, la marche des avocats, les soirées Mehrez, la grève qui se profile le 28 et l'immense manifestation qu'on prévoit déjà pour le 1er novembre.
Alors, mes amis, mis à part notre invité, on lui laisse toute l'heure. On lui interdit maintenant de parler. Juste après, il intervient, bien sûr, en longueur. Mais pour le moment, nos amis habituels à la radio. Donc, on a parlé de ces deux faits majeurs dans la semaine, là, de la semaine. Il n'y en a pas que ça. Hein. Mais si vous avez envie de commenter ou de dire plus sur ces deux faits majeurs-là, ça serait quand même un peu plus. Oui, ouais, je ne sais pas. Vas-y.
Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices. Il y a eu aussi l'acte 2 de l'opération Mehrez pour faire du bruit et pour que les détenus d'opinion puissent entendre que toute la population algéroise est soutenante et solidaire et qui demande la libération des otages. Et il y a eu aussi la manifestation des avocats qui était importante. Qui était importante. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Il y a eu les mardis, il y a eu les étudiants. Pratiquement tous les jours, les manifestants sont dans les rues. L'appel à la grève par les syndicats autonomes L'ampleur que ça prendra, on ne sait pas, mais en tout cas, on soutient et cette action. Voilà, donc on est au 8e mois et la manifestation, les manifestations n'ont pas faibli. Et j'ai envie de dire qu'elles ont même un écho international, parce que maintenant, avec ce qui se passe dans le Liban, ce qui se passe en Chili, ce qui se passe dans le monde, les mécontentements sociaux, l'injustice sociale, les revendications sociales sont au cœur de ces manifestations. Et je pense que l'Algérien ne sont pas seuls aussi dans ces revendications et tient bon. Voilà, donc je salue le peuple algérien pour sa ténacité et pour sa persévérance dans, voilà, à demander la liberté, à demander un état de droit, à demander pas d'élection avec cette mafia oligarche. Voilà, c'est les revendications essentielles, libération des détenus. Ici dans la diaspora aussi, beaucoup de collectifs se mobilisent à Paris, à Nice, à Strasbourg, à Grenoble, voilà, à Marseille aussi. Donc on fait partie du collectif pour une alternative démocratique et sociale, où on essaie de maintenir aussi des rassemblements et appelant tous les Algériens de Marseille et aux alentours de venir tous les dimanches. Il y a eu une programmation la semaine dernière de conférences et d'échanges entre nous. La semaine prochaine aussi, nous pensons faire des projections à la veille du 1er novembre. Et le 1er novembre, voilà, appeler à une manifestation plus importante. Si les Marseillais, les Algériens de Marseille sont à l'écoute, nous vous invitons à vous rapprocher du collectif et de regarder la page Facebook Mon Algérie Marseille pour avoir les informations et de nous rejoindre ce dimanche à 15h au Vieux-Port. Voilà ce que j'avais à dire.
Voilà. Donc, on va revenir en plus en détail sur le programme de la semaine et puis l'excuse qu'on doit présenter à nos auditeurs et auditrices de l'annulation en dernière minute de la venue de Lahouari Addi de Tahar Khelfoun demain, hein. On dira pourquoi un peu plus tard dans la soirée. Bon, mais on continue encore dans les infos. Dahman ou Farid, si vous pouvez intervenir, allez-y.
Bon, bonsoir tout le monde. Je voudrais revenir un peu sur les manifs qui se déroulent au-delà de nos frontières, donc, et surtout l'exemplarité de notre Hirak qui est loin de nos frontières. Par exemple, j'ai vu dernièrement au Liban le drapeau algérien tout en haut des... Hein, par rapport au drapeau libanais, ils l'ont mis un peu plus haut que celui du Liban. Donc, et il déferlait dans les rues en criant de temps en temps l'Algérie, donc l'exemplarité de notre Hirak, qui a donné une très bonne leçon un peu au monde entier de démocratie et de tout ce qui en suit depuis 8 mois qu'on le dit. Moi, je voudrais revenir un peu sur les élections. À ce qu'il paraît, ce pouvoir-là, il prépare un grand coup concernant le matériel à ramener, je crois, du Japon. Pas je crois, je l'ai entendu. Du Japon et de la Corée du Sud. Concernant un matériel électronique qui vaut pas mal de milliards de dollars. Et qui veut le mettre pour qu'il n'y ait pas de trafic ni de magouille au niveau des élections. Donc, cette expérience a été déjà essayé au niveau de l'Irak. Et du coup, les Japonais leur ont dit que même si vous achetez ce matériel, il y aura toujours des failles, parce que le temps que le système rentre en action, etc., il y aura des failles. Donc il faudrait mettre peut-être 100 000 personnes derrière tout ce matériel-là, si dans le cas il y a défaillance, il y a l'être humain qui va agir. Donc moi je me pose la question, pourquoi essayer tout ça? Mettre carrément les 100 000 personnes, ils vont le faire à la façon archaïque, à la façon ancienne, et ce serait mieux au lieu de gaspiller de l'argent comme ça, parce que ce gaspillage-là, il y a de quoi à boire et à manger. Et je reviens un peu, bon, je ne vais pas revenir sur l'affaire de Poutine parce que ça me fait mal au cœur de parler de Ben Salah carrément face à Poutine, parce que franchement, c'est une grande chouma. Poutine, s'il pouvait parler en arabe, il lui aurait dit « Assieds-toi et tais-toi, parce que tout ce qui se passe en Algérie, on le sait, vous ne tenez pas les rênes de l'affaire et donc vous laissez tomber. » Je reviens un peu sur le... Bon, les dossiers de la candidature, il y a pas mal de candidats, Mihoubi, tout ça, tous les gens Benflis qui vont déposer. Bon, Mihoubi l'a déposé, je crois, hier son dossier, les candidats Benflis et toute la clique de l'ancien pouvoir, c'est demain, ils ont le dernier délai, donc ils vont déposer. Donc maintenant, moi je voudrais juste préconiser à nos chers concitoyens l'achat d'un livre d'un écrivain, Bachir Fariq, qui s'appelle Hukm Bouteflika, Junoun ou Khayana. J'essaie d'interpréter ça en français. Le régime de Bouteflika, une folie ou une tradition. J'ai assisté à l'exposé de l'auteur. Franchement, c'est un livre très, très intéressant. Moi, personnellement, je vais essayer de l'acheter et si je demande à nos concitoyens s'ils peuvent le trouver, qu'ils nous le disent où ils l'ont acheté. J'aimerais bien qu'ils me rendent ce service, je l'achèterai. Donc, il s'appellera Folie aux trahisons, le régime de Bouteflika, le règne de Bouteflika, Folie aux trahisons. Donc, je laisse la parole à mes amis, donc après, on continuera le débat.
Bonsoir tout le monde. En deux mots, j'aimerais bien féliciter le peuple algérien pour son pacifisme, parce que tout simplement, ça fait trois jours de ça, j'étais avec un Libanais qui m'a dit « Naman, eh ben voilà, on va vous copier dans vos manifestations », et il allait prendre l'avion pour rejoindre le Liban. Et ça, ça m'a fait beaucoup plaisir. Alors je demande au peuple algérien de rester pacifique, et voilà, c'est tout, hein. Grosso modo, je laisse la parole.
Voilà. Oui, je crois qu'il est 18h, il reste deux minutes juste pour dire quelque chose là, par rapport à l'Akhdar Bourga. Il faut dire que, bon, ça je l'ai entendu sur un certain nombre de médias le dire, c'est que c'est une anecdote, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est que au lendemain de la tentative avortée de coup d'État de M. Taher Zberi en 1967, je crois, hein, contre le président Boumediene, Taher Zberi était obligé de se cacher. Parce que, bon, il est recherché par l'armée algérienne. Résultat, c'est qu'il cherchait où se cacher. Et qui c'est qui l'a caché comme par hasard? C'est l'Akhdar Bourga. C'est lui qui l'a, Cheikh Bourga, comme tu l'avais dit. Cheikh Bourga. Et Boumediene a eu vent de ce méfait-là, si on peut l'appeler comme ça, caché un ce qu'on appelle un séditieux, c'est quand même dangereux. Alors Boumediene, en tout diplomate qui se respecte, a envoyé un émissaire voir l'Akhdar Bourga pour lui dire, s'il te plaît, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu caches un séditieux, etc. Et quelle a été la réponse de l'Akhdar Bourga? Il lui a dit, écoute, imaginez que le coup d'État de Taher Zberi est réussi. Toi, tu es obligé de partir. Et tu viens me demander une cache, je te cacherai, et tu serais vraiment complètement... Tu serais pas content si je te donnais à Taher Zberi. Donc, je peux pas te donner Taher Zberi maintenant parce qu'il serait mécontent. Voilà un peu le ça, c'est une anecdote qu'on raconte. Que, est-ce que ça, ce qu'on appelle sa part de vérité, etc. Mais toujours est-il que c'est une confidence de certains, voilà. Voilà pour ça, on reste dans l'anecdote. Alors, 18h30, pile. On va faire une toute petite coupure de chanson et après on reviendra à notre invité. Écoutez, j'ai pas d'eau à vous offrir là, malheureusement. Alors. دستور انتوما سبتونا ماشي فاهمين التخريب انتوما والتزوير انتوما بعتوا البلاد يا الخاينين
كيفاش حبيتني نفوتي والولاية انتوما الصندوق انتوما حسبتونا ماشي فاهمين المرفوض انتوما ورا المضاد انتوما بعتوا البلاد يا الخاينين وغملوا الكراسة فاحت البلاصة السيستم ديكاجو 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 والصحافة هادو ما طالبنا اللولين وغملوا الكراسة فاحت البلاصة السيستم ديكاجو وغملوا الكراسة فاحت البلاصة السيستم ديكاجو وغملوا الكراسة فاحت البلاصة السيستم ديكاجو وغملوا الكراسة فاحت البلاصة السيستم ديكاج خدعتو الشهداء والإعلام شربتو دم الجزائري بلا تكسرني فيولونس في المسيرة تلقاني شميكس بريم شدنانس لي في قلبي تقيه لشاني ديروها جمهورية حرة ديمقراطية حرة وغير هادي اللي تكون جداري فتناري يبناه بيبان الحق تحلو واليوم الشعب توحد راهو يقولكم ارحلوا غملوا الكراسة فاحت البلاصة السيستم ديكاجو غملوا الكراسة فاحت البلاصة السيستم ديكاجو غملوا الكراسة فاحت البلاصة السيستم ديكاجو غملوا الكراسة فاحت البلاصة السيستم
Voilà, Radio Balear 88.4, 18h37, ma montre indique 2 minutes de retard par rapport à l'horloge de la radio, donc 18h37, 04 91 08 28 10, c'est le numéro d'appel, si vous voulez, et d'ici à 19h30, donc un peu loin d'une heure peut-être, ou même un peu plus s'il le faut, nous allons discuter. Hein, avoir un avis de quelqu'un quand même qui se connaît un peu. Hein, c'est le moins que l'on puisse dire sur la situation en Algérie. Il s'agit de militant Mohand Amzian qui est de Marseille comme nous tous et toutes. Donc et pour parler et tu vous n'entendez pas et pour parler avec lui, bon, donc nous allons lui poser un certain nombre de questions, si vous voulez. Vous aussi, vous pouvez poser des questions. Mais on va lui laisser quand même un temps d'introduction qui soit un peu plus conséquent pour pouvoir nous dire pourquoi on est arrivé là. Bonjour, bonsoir plutôt. Alors le micro bleu, oui. Donc bonsoir.
Al-Khair. Bonsoir. Je ne sais pas si on entend.
À Radio Galère.
Oui, bonsoir tout le monde. Oui, je t'entends.
Oui, donc, bon, je... Alors, il vaut mieux que je mette comme ça, oui. Comme ça, je t'entends en même temps. Hein.
Oui.
Donc, bienvenue chez nous, là, et merci de nous avoir accordé ce moment-là, parce qu'on a besoin aussi d'avoir des avis autres que ce qu'on nous dit ici. Donc, ce que nous disons, nous, on commente une information, c'est tout. Hein. On ne fait pas dans l'analyse, etc. Mais avec toi, on va essayer d'aller un peu plus loin, un peu plus loin que le commenter une information. C'est dans un premier temps, pourquoi on est arrivé là, et dans un second temps, dans les questions, on va essayer de voir comment les choses peuvent évoluer éventuellement. Alors, je te laisse un peu la parole, prends le temps que tu faut là pour t'expliquer.
Bon, bonsoir tout le monde, merci pour l'invitation. Ce que je veux dire, c'est que les choses n'arrivent pas simplement comme ça parce que il y a des gens qui ont envie de faire la manif ou quoi que ce soit. C'est qu'il y a des raisons très profondes et des raisons très sérieuses qui poussent, et la preuve en est de l'ampleur et de l'importance du mouvement qui est en marche en Algérie. Cette ampleur, cette profondeur un peu dans l'ensemble du pays, quelque chose qui est inouï en Algérie, qu'on n'a jamais vu, même pendant la guerre de libération, il n'a pas eu, pour d'autres raisons certainement, même s'il y a eu une adhésion totale à la guerre de libération, mais de manifestations, etc., comme celle-là, dans 48 oulayats, avec 50% de la population, et ce n'est plus la même population, ce n'était pas les 8 millions de 54-62, mais 40 et quelques millions d'aujourd'hui. Donc nous avons, du point de vue quantitatif, du point de vue de l'impact aussi bien interne qu'externe, un événement formidable. Cet événement, il faut le saluer comme étant un mouvement qui a su jusqu'à maintenant maintenir, mais qui a aussi ses côtés que l'on pourrait voir de blocage, qui donne une impression de... On en reviendra par la suite. Alors, comment on en est arrivé là? C'est la question fondamentale, parce que même aujourd'hui, quand on va chez le médecin, il vous pose des questions sur vos papas, maman, sur les grands-parents, est-ce qu'il y a des choses, etc. Et donc, il faut savoir un peu ce qui s'est passé en Algérie, bien avant Bouteflika lui-même et bien avant Chedli, etc. L'Algérie a subi l'une des pires colonisations qui existent. Je ne vais pas me mettre sur le dos de la colonisation ce qui se passe aujourd'hui, hein, pour qu'on s'entende bien. Mais c'est bien de rappeler l'histoire de l'Algérie. L'histoire de l'Algérie est une histoire... paradoxal. Les Français, quand ils sont arrivés en Algérie, ils étaient un peu comme ça, déstabilisés pour savoir qu'est-ce qu'ils en font, qu'est-ce qu'ils en font pas. À un certain moment, ils ont voulu pratiquement faire une colonie de peuplement total, donc supprimer les Algériens ou les réduire comme les Indiens d'Amérique ou les Aborigènes d'Australie. Ils n'ont pas pu. Ils ont voulu amener, soi-disant, la démocratie, la civilisation européenne, etc. Mais ils ont créé des sous-citoyens, et même pas des citoyens, des sujets, avec une dichotomie, avec des Européens qui avaient tous les droits du citoyen et des indigènes qui n'avaient pas ça. Ils ont investi le pays pratiquement à leur avantage sur 90% de l'activité économique, de l'agriculture, de l'industrie, des ports, etc., laissant la part congrue aux Algériens. Ces Algériens, qui représentaient quand même 9 dixièmes de la population, n'avaient pas 10% du capital réel ou de la masse de l'avoir en Algérie. Et le pire, c'est que la bourgeoisie française, étant très très bête, n'a pas su négocier le virage des indépendances. elle a tenu à ce que l'Algérie française, etc., etc., et ça a été une guerre terrible où pratiquement 20 à 25% de la population masculine a été massacrée. La deuxième chose, c'est que en 62, avec l'OAS, etc., les Européens sont partis. Ils sont partis avec le savoir-faire, avec un certain nombre de choses, que, on verra pourquoi, les Algériens n'ont pas pu basculer sur un mode de développement qui pourrait aller vers le développement de l'Algérie, etc. Et donc, ce qu'on appelait la bourgeoisie algérienne à l'époque, elle avait la part congrue. Elle était très faible, elle n'avait pas de capital, pas de savoir-faire, elle n'avait rien, même les ouvriers les plus qualifiés, c'était des Européens. Quand on parle de Aïssat Idir comme mécanicien ou quelque chose comme ça chez Air Algérie, c'était pas tout le monde qui était mécanicien chez Air Algérie ou bien dans les grandes entreprises, etc. Et les Français à l'époque avaient laissé aux Algériens uniquement les métiers qui étaient dans des métiers assez importants, uniquement ceux qui entraient à la misère, c'est-à-dire instruire les gens, les instituteurs de la campagne. En ville, c'était à 90% ou 95% que des Européens. Les médecins, pour soigner les Arabes, pour soigner les indigènes, comme on disait à l'époque. Les avocats, parce que quand on arrive à la justice, c'est qu'on est malheureux, etc., etc. Les interprètes, parce que 94% de la population était analphabète, et tout. Donc, on se retrouve en 62 avec un pays tout neuf, abandonné, où ceux qui ont pris le pouvoir, ou ceux à qui la bourgeoisie algérienne a délégué le pouvoir, parce qu'elle ne pouvait pas régner, c'était l'armée des frontières. Pourquoi l'armée des frontières? C'est parce que l'armée des frontières était celle qui, même si beaucoup d'entre eux étaient issus de la guerre de libération, mais pour la plupart, pour l'encadrement technique et après même idéologique, etc., étaient issus de l'armée régulière française, qui avaient une mentalité d'officiers français et qui le sont restés assez longtemps en Algérie. Et donc, ceux-là, ils ont dit, nous allons mettre de l'ordre, on va mater tous ceux qui, auparavant, maquisards ou pas, étaient liés à la population, liés au peuple, etc. Et on a vu des gens comme Bourga, dont on parle aujourd'hui, qu'on salue ne serait-ce que pour son vieillage, ont été mis de côté. Ils ont essayé, les pauvres, avec le FFS, avec un certain nombre de choses, mais la machine militaire qui était préparée depuis quelque temps avant l'indépendance et qui a déferlé avec tout l'armement et tout le savoir-faire de la guerre de ville et non plus la guerre de partisans, a fait que ce sont les autres qui l'ont emporté. Ils ont trouvé des potiches pour la période de 62-65 dans cette espèce de président qu'on appelle Bembella. Et puis, par la suite, ils ont directement, une fois que c'était un peu maté, de 62-65, ils ont pris le pouvoir et pendant 6 ou 7 ans, jusqu'à 72, ils ont mis de l'ordre dans le GTA. Parce que le GTA qu'on voit aujourd'hui, elle est issue de quoi? Elle est issue d'un complot, enfin pas d'un complot, mais d'une prise de force d'un congrès en 62-63 où on a sorti tous les anciens syndicalistes, on en a mis d'autres et on a créé la nouvelle UGTA. L'Union des étudiants algériens ont été enlevés. À l'époque, il existait une Union générale des travailleurs de la terre qui était le correspondant de l'UGTA. On l'a supprimé, on a créé l'Union des paysans. On a noyé les travailleurs de la terre dans une espèce de machin, etc. Et en 72, il y a eu le pétrole. Alors, ce pétrole-là, pas le pétrole en lui-même, mais la gestion de l'État à partir de la rente, c'est le problème principal de l'Algérie. Pourquoi? Parce que le problème de la rente, tel qu'il est étudié par les gens les plus sérieux, dont Nadine Picaudou, je recommande un livre de Nadine Picaudou sur la question du Moyen-Orient et qui analyse tous ces rois et ces émirs du Moyen-Orient, dit que là, l'économie de rente, elle crée un État qui, en quelque sorte, se suffit à lui-même par la nationalisation du pétrole. donc n'a pas à répondre au peuple ou aux travailleurs qui produisent. Il crée une clientèle pour pouvoir se maintenir, c'est ce qu'on appelle tous les gens qu'on met dans l'administration, qu'on met un peu partout. Évidemment, il crée le népotisme et donc la gabegie et la corruption. De l'autre côté, pour que le peuple ou les classes les plus pauvres du pays restent tranquilles, on crée le système de l'assistanat. Ça a commencé déjà avec Boumdian, avec le soutien des prix. Alors le soutien des prix, on ne voyait pas le soutien de quel prix. Si on soutenait au moins le prix de ceux qui produisent, ça va, mais on importait pour casser l'économie interne du pays. Et cette économie-là, elle fonctionne donc toujours sur la confiance qui résulte de la rente qui est distribuée aux gens. Mais chaque fois que la rente disparaît ou s'effondre, le peuple se révolte. En 88, on a parlé de complot, etc., mais c'est essentiellement le contre-coup pétrolier de 86 qui a fait baisser le pétrole de 44 dollars à 11 dollars et le change du dollar en francs de 12 francs à 5 francs qui a fait sauter la baraque. Par la suite, ils ont réussi à maintenir avec la guerre civile, parce que la guerre civile, il faut dire qu'il y a une guerre civile entre Algériens, mais il y avait une guerre économique qui a été faite contre l'économie algérienne par le passage sous les fourches caudines de tout le FMI. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils ont fait passer tout le FMI et toutes les injonctions du FMI, soi-disant, on va dire, pourvu qu'on ait la paix, on est capable de supporter tout ce qu'on veut. Et donc on en arrive avec l'an 2000, ou 1999, où on ramène un cacique du système, parce que Bouteflika, c'est pas un nouveau Bouteflika. Bouteflika, on entend parler déjà pendant la guerre de libération, comme une espèce de négociateur qui passe en France pendant la guerre de libération alors qu'il était capitaine de la Hélène, qui se fait passer soi-disant pour un journaliste, et qui va voir les 5 détenus d'Aulnoy pour savoir lequel est le plus malléable pour pouvoir le mettre comme potiche après 62. Et donc on ramène Bouteflika, et pour notre malheur, le prix du pétrole augmente. Pour notre malheur, non pas toujours le pétrole qui augmente ou pas, mais pour l'utilisation qu'ils en ont fait. C'est-à-dire que de 2002 jusqu'à 2014, ils ont dépensé, ils ont acheté la paix sociale avec l'ensège, le ceci, le cela, la libéralisation de tout. Et on en arrive à 2014 où ça commence à craquer. Parce que le prix est tombé. Et je cite toujours ces soi-disant musulmans qui nous parlent du Coran, qui nous parlent de ceci, mais qu'il y a une sourate dans le Coran, dans la Bible, qui s'appelle Joseph, Youssef, où il y a les 7 vaches maigres et les 7 vaches grasses. Ils n'ont même pas été capables, au moins, de copier. Ils ont tout bouffé d'un coup. Et les 7 années après, eh ben, on en arrive aujourd'hui. On en arrive aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que le peuple ne peut pas, mais le peuple, il lui faut aussi des ressorts pour pouvoir bouger. Il lui faut des ressorts. Et ces ressorts-là, c'est essentiellement la malvie qui a été encore plus exagérée, plus approfondie lorsqu'on a commencé à voir les jeunes mourir en mer. Lorsqu'on a vu les gens ne plus savoir quoi faire. Lorsqu'on voit des jeunes faire des chaînes de kilomètres pour quémander un visa à la puissance coloniale. Tout ça, c'est peut-être dans le subconscient, mais ce sont des traumatismes et ce sont des humiliations permanentes qui ont fait que les gens ont bougé. Et donc on en arrive là. On en arrive qu'aujourd'hui, l'un des slogans du Hirak, c'était « Kelitul Bled ». En réalité, Kelitul Bled, c'est-à-dire que qu'est-ce que vous avez fait de l'argent? Qu'est-ce que vous avez fait de ceci et vous n'avez rien fait? Après cela, il y a des questions qui sont fondamentales dans l'Algérie. Qu'est-ce qu'a fait la France? La France, elle a fait des routes, elle a fait des barrages, elle a fait une... Alors j'emploie aussi le mot DRS de l'époque. Mais à l'époque coloniale, c'était la défense et la restauration des sols. Aujourd'hui, c'est la destruction de tous les révolutionnaires sociaux en Algérie. Ce n'est pas le même DRS qui était à l'époque que maintenant. Et le DRS, donc c'était la défense et restauration des sols. Maintenant, quand le DRS il s'occupe de te redresser, toi, pas de redresser autre chose. Et donc, quand ils font l'autoroute Est-Ouest, tout le monde salue l'autoroute, mais tout le monde dit « Ah, ils ont perdu de l'argent ». Mais l'autoroute en elle-même, le projet d'autoroute lui-même, est un projet néocolonialiste. On n'a fait que renforcer ce que les Français ont fait. Il n'y a pas une voie de chemin de fer qui a été construite depuis 62. On était à 4300 km, on est toujours à 4000. On faisait un trajet, moi je suis de la région de Tizi Ouzou, c'est la même vitesse qu'on met depuis cette époque-là. Quand vous voyez le niveau de vie, je me rappelle, un enseignant en 64-65 touchait 720 dinars. Avec 720 dinars, il pouvait acheter un petit veau. Aujourd'hui, même s'il touche 4 ou 5 millions, il ne peut même pas acheter une cuisse. C'est ça le problème des Algériens. Ce n'est pas simplement une question de liberté, mais c'est presque une question de survie aujourd'hui. Alors évidemment, les slogans, les trucs politiques prennent une autre sémantique. On emploie d'autres mots, la liberté, la démocratie, etc. Mais le fondement de tout ça, c'est que les gens ne s'en sortent plus. C'est que les gens ne s'en sortent plus. L'âge du mariage, qui était à l'époque quand les gens se mariaient, parce qu'ils avaient confiance dans l'avenir. Aujourd'hui, il faut que tu aies tout, parce qu'on n'a confiance en rien. Il faut d'abord que tu aies tout pour que tu te maries. À l'époque, on te dit, tu te maries, tu es béni d'art. Alors qu'il faut avoir d'art pour te marier. Ça veut dire qu'avant, tu te maries, tu avais la confiance. Aujourd'hui, il n'y a même plus cette confiance. Il n'y a même pas ça. Quelqu'un il dit, je ne vais pas donner ma fille comme ça, ou bien il ne va pas dire à son fils comment tu vas faire, etc. Donc, et ce sont des questions fondamentales des gens. Il n'y a pas que simplement le cinéma ou autre chose, mais il y a la question de la vie de tous les jours. On est père de famille, on a vécu ces histoires-là. Donc aujourd'hui, évidemment en Algérie, se pose le problème non seulement du pouvoir, de la démocratie, de la liberté, etc., mais comment sortir de cette saloperie de situation dans laquelle on a perduré pendant 50 ans? Comment? Évidemment, il y a deux façons de voir. Il y a la façon de ceux qui disent « il suffit d'une bonne constitution, il suffit de bons textes, il suffit de bons ceci, etc. » C'est vrai, il faut que ça vienne un beau jour, les lois, mais sur quelle base, sur quelle économie? Les mêmes conditions vont recréer les mêmes conséquences. Et c'est tout le problème du Hirak, c'est tout le problème du mouvement actuel. Voilà, bon, dans un premier temps, je pense que...
Voilà, donc, merci pour cette introduction-là. Bon, je ne sais pas si on peut revenir sur ce qu'il a dit en tant que commode. Moi, j'ai juste une question. Tu as fait une sorte de 62 à maintenant, c'est linéaire. Est-ce qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle de coupure ou de rupture entre les différents gouvernants successifs en Algérie, hein? C'est-à-dire qu'on parlait, parce que d'un commun accord, on convient que la période de Boumediene était une période et la période après Boumediene c'est une deuxième période. Est-ce que toi, tu ne fais pas tellement de différence entre les deux?
Je ne fais pas, c'est pas que je ne fais pas de différence. Les périodes partout dans le monde sont différentes. Mais il faut comprendre que Boumediene, ce n'est pas, j'aime pas utiliser le nom des personnes. Parce que pour moi, ce ne sont que des représentants de force qui les dépassent. Pourquoi? Parce que la période de Boumediene, 10 ans de Boumediene, ou du moins, au moins jusqu'à 72, il a il a profité de l'élan de la guerre de libération. En 62, personne ne pouvait imaginer qu'on pouvait autre chose que l'indépendance. Ensuite, en 62, le niveau de vie des gens est brusquement monté de la masure, de la guerre, de déracinement, comme dit Bourdieu et Sayyad, de toute cette période de misère, de mort, etc. Les gens, ils avaient de l'espoir. Ensuite, tout le baratin et toute l'idéologie dominante du FLN de l'époque, c'était que dans 10 ans, on va dépasser la France. Moi, je me rappelle de ça. Je me rappelle de l'époque. Ce qui nous empêche de nous développer, c'est le fait d'être colonisés. Et quand on aura l'indépendance, à ce moment-là, nous qui nourrissons la France, c'est nous qui allons nourrir tout seuls. Parce que c'était ça qu'on disait. On disait, voilà, la France, c'est nous qui la nourrissons, c'est notre truc, c'est nous. Et les gens, ils avaient l'espoir. Les gens allaient à l'école. Les hôpitaux ouvraient. Moi, je me rappelle de l'époque où aller à l'hôpital, c'était pratiquement impossible pour un Algérien. Aller à l'école au-delà du certificat d'études, je te dis, le collège de Tizi Ouzou, où j'étais, où je suis rentré en 54, on était 200 élèves pour toute la Grande Kabylie. Aujourd'hui, ou même après, il y avait des lycées un peu partout. Les hôpitaux, il y avait un hôpital à Tizi Ouzou, qui était une annexe de la caserne militaire, de l'hôpital militaire qui était dans la caserne. C'était un petit machin où personne n'allait. Aller chez le médecin, ça demandait des moyens. Donc, à un certain moment, en 62, il y a eu vraiment un espoir que ça allait changer. Mais au bout de quelques années, au bout de 10 ans, qui sont rien dans l'histoire de ceci, avec le développement des hydrocarbures à partir de 66, puis la nationalisation en 72, ça a permis jusqu'en 80. Et à ce moment-là, il y a eu de ça. Mais la période de Chadli, qui a profité pour ouvrir un peu ce qu'on appelait l'infitah à l'époque, l'ouverture, elle a duré 6 ans, 7 ans. Puis après, ça a été le chaos depuis. On ne peut pas considérer que depuis 88 à aujourd'hui, il y a eu un moment de paix en Algérie. Même la paix non-guerre, disons, était une paix de misère, une paix de où on n'a jamais vu autant d'Algériens partir de leur pays, on n'a jamais vu autant de gens aller peut-être au Moyen-Orient pour faire ceci ou cela, ou au Pakistan ou en Afghanistan, on n'a jamais vu autant d'Algériens ne plus être bien chez eux. Donc, qu'est-ce que ça a duré, cette époque-là? Je te dis, moi, pour moi, mon analyse à moi, c'est que Boumdine, il a profité de cette inertie. C'est comme un camion, tu le pousses, il va rouler tant qu'il a... Dès que l'essence... après, il faut pousser. C'est toi qui dois pousser, c'est plus lui qui te porte. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, voilà, parce que le premier choc pétrolier dont ils ont profité, il a fait passer le pétrole de 2 dollars à 11 dollars, 6 fois plus à l'époque, c'était quelque chose de formidable. Donc, ils ont profité de ces situations-là. Mais la nature de la gestion de l'État est la même. Ce qui a changé, ce qui change dans ces périodes-là, c'est la gabegie. Pourquoi ? Parce que plus il y a d'argent à dépenser, plus les voraces sont encore plus voraces. Plus les gourmands sont plus gourmands. Et plus il faut élargir la sphère de la clientèle et de tout ça. Et c'est ce qui s'est passé avec Bouteflika. Avec Bouteflika, c'est le fait qu'il a eu 1000 milliards pour acheter tout le monde, ou du moins dans son esprit. Il les achetait même en ne sachant même pas qu'il les achetait, puisqu'il était pendant 5 ans ou 6 ans dans l'incapacité de gérer. Voilà, je ne fais pas de différence en soi. Mais pour moi, c'est le même personnel. Il est sorti, à part le petit intermède de Boudiaf. En dehors de ça, c'est le même personnel depuis 62. C'est tous des gens qui sont issus de l'armée et qui ont dirigé. Voilà.
Voilà. Si vous avez des questions par rapport à cette première partie, il n'y a pas de problème. Sinon, on va... Oui, vas-y.
Omar.
Mais qu'est-ce qu'on m'a...
Vous avez parlé tout à l'heure de... Concernant l'économie, vous avez dit que les Algériens, ce volcan-là, il est entré en éruption. C'est par rapport à l'économie, les besoins des Algériens, donc ils ne voyaient pas d'argent, ça leur manquait de manger, etc., etc. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est surtout la justice sociale qui a fait le déclic en lui-même, la Hogara, ce piston-là, hein, qui court les rues d'Alger et de toutes les wilayas, surtout le territoire national? Ceci est ma première question. Ma deuxième... vous avez fait allusion que même si on met en place une constitution ou des lois, ce n'est pas vraiment, je pense, si je me trompe, vous me corrigez, ce n'est pas vraiment très important, mais moi je vous dirais, il nous faut bien quand même un gouvernail. Et ce gouvernail-là, moi je pense, j'estime que c'est la constitution avec des lois justes, propres, honnêtes. En grosso modo, une vraie démocratie. Voilà. C'est bon. Oui. Merci.
Enfin, tu peux me tutoyer.
Voilà.
Le problème de la Hogara, de l'injustice, etc., il est indissociable de la situation économique des gens. La situation économique des gens, ça veut dire que les gens, lorsqu'ils ne peuvent plus, parce que j'ai dit que le système, il n'est pas basé justement sur un état de droit, comme on l'appelle, etc. Donc, c'est en fonction de ce que tu as que tu peux faire valoir tes choses. Tu connais la blague qu'on raconte en Algérie. L'un, il a volé de la paille, l'autre, il a volé des milliards. Bon, l'autre, il a dit le bourrico hachakoum. Il ne mange, le juge, c'est pas un bourricot, il ne mange pas de paille, il mange des millions. Donc, même ça, c'est lié les deux choses. Je ne les dissocie pas. Mais ce n'est pas Haddad qui a respecté, ou un autre Tarkot, ou je ne sais pas comment il s'appelle, ou bien Triba. C'est quand même les gens qui sont sortis. Je ne dis pas que 90% des gens du Hirak sont des malheureux ou des misérables. Non! Il y a plein de gens qui sont portés par la justice, par la dignité, par le respect, etc. Ça, c'est évident, ça, c'est évident. Mais je parle des mouvements profonds de la société. Les Algériens, ou un autre peuple, hein, c'est pas simple. On a parlé tout à l'heure, on a commencé à parler de tous ces mouvements-là qui sont un peu partout. Ils peuvent se ressembler comme ils peuvent être différents selon les circonstances. Mais, par exemple, les Libanais. Aujourd'hui, l'une des raisons pour lesquelles ils sont sortis, c'était l'augmentation d'une taxe sur WhatsApp ou je ne sais pas trop quoi. Sur la téléphonie. C'est-à-dire que le phénomène déclenchant, on ne sait jamais lequel était. On ne peut pas le savoir. Par exemple, en Algérie, on peut dire que l'élection de Bouteflika, ça a été l'élément déclenchant. Mais ce n'est pas... C'est un élément qui déclenche. Mais ce n'est pas forcément l'ensemble des problèmes qui sont accumulés depuis un certain temps et qui font que, au bout d'un moment... N'importe quelle petite chose peut faire péter les plombs, si vous permettez l'expression. Voilà, donc quand je disais par exemple quelqu'un qui a son fils ou son neveu ou quelqu'un d'un village ou d'une ville ou du quartier, il voit deux ou trois jeunes qui ont essayé de s'en sortir et qui meurent, qui sont crachés par la mer, comme on dit. C'est des choses qui sont elles-mêmes très graves, mais qui sont aussi le reflet. Pourquoi ces gens-là, ils s'en vont? Pourquoi ils n'ont pas de vie? Parce que on ne vit pas que de pain. C'est vrai, il n'y a pas que le pain. Moi, je connais des gens avant qui étaient plus pauvres que ceux de maintenant. J'ai connu la situation des périodes très, très pauvres où les gens avaient une dignité supérieure parce qu'il y avait aussi l'entraide. Il y avait la solidarité. Il y a beaucoup de choses de ce type-là. Il y a eu un changement social en Algérie. Ce n'est pas l'Algérie de 1954. Il y a l'individualisme. Ils ont introduit l'individualisme. Ils ont introduit chèque, benness, chacun fait. Donc la suspicion, un truc, attention, ne parle pas, on ne sait pas qui, etc. Et c'est une accumulation de toutes ces choses qui font que les gens, ils sont là. Maintenant, pour la deuxième question, je ne dis pas que les textes ou quoi que ce soit, non. Mais je dis que les textes, il faut qu'ils se basent aussi sur des réalités. Vous pouvez faire la plus belle constitution du monde. Si vous avez des vauriens, ils peuvent la placarder où ils veulent et ils peuvent la violer partout. En Algérie, la constitution, s'ils avaient... Je me rappelle de la charte nationale, quand ils ont fait la charte nationale. Évidemment, il y a de tout dedans. Hein, ça reflète un certain nombre de choses. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le Hirak lui-même, il dit, vous ne respectez pas la constitution que vous avez faite. Ils ont fait une constitution, ils ne la respectent pas. Donc, le problème, c'est l'assurance que ces textes-là émanent réellement et dans l'intérêt et par ceux qui vont les mettre en place. C'est ça que je veux dire. Voilà, c'est pas... Et ça... Ça, c'est le plus dur. Ça, c'est le plus dur parce que nous n'avons pas de parti politique.
Il faut qu'il y ait une parole et un acte.
Il faut une parole et un acte. Évidemment, il faut des paroles, il faut qu'il y ait le mouvement. Mais simplement, quand vous voyez, par exemple, aujourd'hui, les partis politiques. Le parti politique qui te dit, je suis avec le Hirak. C'est quoi, toi? Tu es un parti politique, toi? Tu es avec le Hirak, qu'est-ce que ça veut dire? Tu suis le Hirak ou tu es un parti politique qui propose quelque chose pour le Hirak, qui propose un truc. Tu es à la queue du Hirak, tu n'es plus un parti. Tu es un suiviste. Donc, après l'autre, il te dit, je suis là, je manifeste, mais à titre individuel, alors que tu es chef de parti. Oh, comment tu es à titre individuel? Tu ne peux pas être à titre individuel dans un truc comme ça. Tu représentes, les gens savent que tu es X, Y. Donc, et nous avons en Algérie, il y a ce poids des partis politiques qui sont rejetés d'ailleurs pour la plupart par le Hirak parce que ils ont tous je ne dis pas mangé au râtelier, mais ils ont tous quelque part dansé à la musique du système.
C'est leur moment d'errement, on va dire. C'est leur moment d'errement. Les errements, voilà.
Et les errements, c'est cette histoire justement de... D'être basé sur des fondements. Parce que quand on voit des partis, et suivez mon regard, qui changent de direction tout le temps, des partis qui sont liés à des officines données, des partis qui sont comme ça, et la confiance, parce que la confiance, elle est importante dans la vie. Dans la vie, la confiance, quand vous voyez les jeunes ici en France, par exemple, aujourd'hui, ils n'ont pas confiance parce qu'on a inventé le CDD. Avant, moi, quand j'étais jeune, il n'y avait pas de CDD, il y avait des CDI. Mais quand tu rentrais à la poste ou là, tu rentrais dans un chantier ou n'importe quoi, pratiquement, il n'y a personne qui te dit pour combien de temps ni quoi que ce soit. Tu sais, quand... Aujourd'hui, le type, il ne sait même pas s'il va finir son CDD. Et on ne peut pas construire ni un mouvement politique, ni une vie sans confiance. La confiance, évidemment, peut être traduite par l'espoir. D'accord? Et tant qu'il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de vie. Ce n'est pas tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Moi, c'est tant qu'il y a de l'espoir qu'il y a de la vie. C'est l'espoir qui fait marcher les gens pour aller vers ceci ou vers cela. Voilà. Je ne veux pas rentrer là-dedans.
C'est... Je voulais vous remercier pour ce tableau très exhaustif. Je vous remercie donc pour ce tableau très exhaustif et très documenté, en fait très, très didactique en tous les cas de la situation, de l'histoire de l'Algérie. J'aurais voulu juste poser une ou deux petites questions d'un ordre tout à fait factuel. Vous faites remonter à la colonisation française, les malheurs de l'Algérie.
Non.
Moi, je les ferais remonter un peu, parce que je sais que ça fait mal de le dire, mais je pense qu'on a été colonisé bien avant la France, déjà par 3 siècles de colonisation turque, qui, paraît-il, d'après les livres d'histoire, c'était pas très gai également. Donc, mais c'est factuel,
on ne va pas remonter à ceci. Je voulais vous poser une question sur cette période de 62, ça c'est d'histoire, où effectivement vous décrivez très bien le mécanisme de l'armée des frontières qui était, moi je dirais, moi je suis de... J'ai toujours aimé le livre « Le fleuve détourné » de Mimouni. Moi, pour moi, ils étaient les 15 000 hommes qui étaient aux frontières. Certes, ça a pu être à un moment donné des gens de l'ALN, mais ma question, c'est est-ce que vous pouvez dire que l'ANP de 62 était la digne héritière de l'ALN? C'est un grand débat. Je sais que ça gêne beaucoup et que moi, pour moi, je dirai ce que j'en pense, si vous permettez tout à l'heure. Mais vous parlez de cette lassitude en 62. En 62, j'avais 13 ans, et les gens disaient « Sebastien Barakel », je m'en souviens comme si c'était hier. Oui. C'est cette lassitude qui a fait que... Et puis on s'est dit, après tout, c'est quand même des Algériens, peut-être que... Et c'est vrai qu'il y a eu un petit espoir. Là où je suis un tout petit peu, c'est qu'en 60... Quand même, il y a eu... 62, c'était... Il n'y avait plus rien. L'OAS avait détruit le peu de choses qu'il y avait... Mais l'Algérie a pu avancer pendant quelques années. Il y a eu des, comme vous disiez si bien, des hôpitaux, des universités qui ont pu tourner tant bien que mal. Donc tout n'est pas tout à fait noir, bien sûr. Mais après, bon, on a eu droit à pire. La crise, pour moi, elle est multidimensionnelle, bien sûr. Il y a la crise sociale, il y a la crise économique, il y a la crise. Mais je crois qu'on... Le peuple algérien est malheureux depuis 5 siècles. Et je voudrais dire qu'on va dans Paton, c'est un livre que j'aimais beaucoup, « Pleure au pays bien-aimé ». J'espère qu'on va bientôt commencer à arriver.
Oui, bon, rapidement sur la question turque. La question de la colonisation turque, elle existe. Elle n'est pas de la même nature que celle des Français. Les Turcs étaient essentiellement orientés vers la Méditerranée. C'était des marins, c'était des gens qui faisaient la piraterie, le corsaire en Méditerranée. Et la chose la plus fondamentale de différence entre la période coloniale française et la période d'occupation turque, c'est que les Français sont arrivés dans la période industrielle et capitaliste. C'est-à-dire de la révolution industrielle, de la nouvelle société actuelle qui domine le monde. Les Turcs n'étaient pas ça. Les Turcs, jusqu'à Mustafa Kemal, c'était le califat, c'était l'Orient, c'était ceci, etc. Donc, on ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir développé le pays. Ils ne pouvaient pas. Je ne les excuse pas. Hein. Mouled Gaïd a écrit un livre, L'Algérie sous les Turcs. Il n'a pas dit l'Algérie des Turcs, ou etc. Mais quand il a dit sous, ça veut dire... Effectivement, les Turcs, ils ont fait l'inverse des Français. Les Français ont réussi quand même à unifier la lutte de libération nationale. Et moi, je me rappelle d'une discussion avec Bentobel. Il a dit, moi, je ne cherche pas à savoir Jeddi, etc. Il dit, tout ce que je sais, c'est que le sang des Algériens a été versé sur toute la surface de l'Algérie actuelle. Donc, il ne cherche même pas à savoir si l'Algérie actuelle... il a dit, on a versé le sang partout, donc c'est notre Algérie, etc. Bon, c'est ce qu'il disait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la guerre de libération, d'abord le mouvement national de Mseli Hadj, parce qu'il ne faut absolument pas... Il y a des gens aujourd'hui qui insultent et tout, avec lesquels je ne suis absolument pas d'accord, parce que ça a été le pionnier, ça a été pendant 30 ans... Celui qui a forgé tous ces gens-là qui ont pris le maquis et tout ce que tu veux, pendant 30 ans, il y a eu cette politique, cette affirmation de l'Algérie, etc. etc. Maintenant, concernant les 10 ans de ce que je disais tout à l'heure, ils ont fait des écoles, ils ont fait ça. Oui, ça c'est le côté... superficielle de la société. C'est celui qui intéresse le citoyen à un moment donné lambda. Mais ce qui est important et qui n'a pas été fait, c'est la restructuration de l'Algérie. Faire des barrages, faire des routes pour le sud, développer les hauts plateaux, développer l'agriculture. On a fait une industrie soi-disant soboumdienne, on a commencé avec la Corée du Sud. 10 ans après, L'Algérie, elle stagnait toujours et aujourd'hui, à presque plus rien, le Hadjar, il a été vendu, revendu. Je ne sais même plus ce qu'il est devenu. Et il joue avec comme un ballon de foot. Le Hadjar, qui était soi-disant le fleuron, etc., et qui a formé des gens, qui a fait le truc, je parle en connaissance de cause. Mais la Corée du Sud, 10 ans, 12 ans après, elle dépassait la France du point de vue de la production sidérurgique. La révolution agraire, ça a été un fiasco. Le barrage vert, ça a été un fiasco. Les chemins de fer, Mekanch. Les routes, on a doublé les routes que les colons ont fait pour leur territoire. Et on continue encore à ça. Pire, c'est que maintenant, contrairement à avant, 80% de la population algérienne, elle est sur la bande littorale. Il nous manque que des maillots de bain pour passer tout le temps. Ça, c'est grave. Ça, c'est pour ça que je dis, quand bien même ils ont fait des choses qui, pour la population, étaient acceptables, mais pour les générations futures, il faut investir sur 40 ans, sur 100 ans. Ce n'est pas les pays qui se sont développés, comme on dit. Ils ont investi, ils ont fait suer le burnous bien comme il faut. Et nous, non, non. Pourvu que je prenne un certain moment, le pire encore avec cette histoire de rente, c'est que la rente, c'est une production nationale, mais qui ne se réalise pas dans le pays. C'est une production du sol ou du sous-sol algérien, mais qui se réalise sur le marché mondial. Il se réalise à Londres, il se réalise ailleurs. Le prix, il est basé ailleurs. Et quand il revient, l'argent lui-même, il est déposé dans les banques de tous ces pays-là. Parce que l'Algérie, quand elle achète des tracteurs ou quand elle achète des frigidaires, etc., elle paye par lettre de crédit, elle le paye avec de l'argent qui est là-bas. C'est-à-dire que chez toi, il n'y a pas... Même ça, ce n'est pas une réalisation du marché national. Alors que quand tu plantes une pomme de terre et que tu la vends sur le terrain national, c'est une réalisation, même si ça rentre dans la rente ou n'importe quoi. Et c'est ça qui a manqué pour l'Algérie et qui manque encore. C'est pour ça que les tâches qu'ils vont faire, moi, j'ai des doutes sur la capacité pour pouvoir les faire. Il faut vraiment un mouvement qui va au-delà de tout ça. Qui va au-delà de tout ça et qui bouscule complètement la structure du pays. Parce que même l'histoire de l'armée dans les casernes, qu'est-ce que c'est que cette histoire de l'armée ? L'armée, il faut... Allez, tous les officiers supérieurs, barra. Qu'est-ce que ça veut dire dans les... Ils vont encore tenir les armes et ils vont sortir dans 3 ans comme ils ont fait avec Sissi. Qu'est-ce qu'il a fait le mouvement égyptien ? Pourquoi il l'a raté ? Il a fait un mouvement grandiose avec des millions de gens lui aussi. L'armée, etc. 3 jours après, il y a eu une manifestation. Enfin, un an après, il y a eu une manifestation. Et l'armée qui n'a pas été décapitée, qui n'a pas été stérilisée dans sa nuisance interne, elle est revenue et il a pris le. Et maintenant, il se pavane en costume cravate comme si c'était un civil, etc. C'est ça le drame de ces mouvements-là. Et c'est pas facile. Moi, je crois qu'il faut être optimiste. Il faut être très optimiste, mais tout en étant réaliste.
Oui.
Et du coup, par rapport à cette analyse, est-ce qu'on peut dire que c'est le moment aussi de réfléchir à un projet de société économique, de justice sociale, et pour cela, est-ce qu'il faut s'organiser et comment s'organiser ?
C'est tout le problème. C'est tout le problème parce que aujourd'hui, je vais être franc parce que je suis pas venu ici pour raconter des salades ni quoi que ce soit. Je livre le fond de ma pensée. Aujourd'hui, supposer que le Hirak ne sorte avec absolument aucune proposition positive. Il a beaucoup de propositions, mais elles sont négatives. Quand je dis négatives, c'est pas dans le sens péjoratif du terme. C'est-à-dire, il dit, on ne veut pas de ça, on ne veut pas de celui-là, on ne veut pas de ceci, oui, on ne veut pas de cela.
C'est pas votre proposition mais, de l'avenir.
Mais, alors, les trucs positifs, c'est démocratie, liberté, etc. Mais ça ne fait pas un programme politique. Je suis désolé. Mais les programmes politiques, c'est pour ça que je parle des partis, des partis qui sont soi-disant démocrates, ceci, elle nous raconte des blagues depuis 30 ans. Quel est leur programme? Est-ce qu'ils ont analysé la situation? Est-ce qu'ils ont dit pourquoi l'Algérie elle est comme ça? Qu'est-ce qu'il faut pour ça? Et quelle est la force qui va le faire? Quelle est la force qui va être là? Bon. On voit bien que, par exemple, bon, je vais faire une parenthèse, je ne sais pas s'il y a des questions, peut-être.
Il y a un coup de fil.
Surtout la transition, voilà. Justement.
Oui.
Il faut que les Algériens se structurent.
Oui.
Oui, l'organisation.
Voilà. Alors, oui, mais la structure.
Est-ce qu'on attend des partis? Est-ce que la société algérienne, les citoyens algériens, peuvent se structurer et s'organiser et montrer leurs aspirations pour l'avenir sans les partis? Parce qu'il y a un vide.
Ben, il faut qu'il le fasse. Il faut qu'il le fasse. Il faut qu'il le fasse. Mais pour le moment, on ne voit pas très très bien. Pour le moment, il n'y a pas.
C'est pour ça, monsieur, que Mehera qui demande une transition. Pendant oui. Cette transition, il peut se restructurer. Mais.
Ah, merci. C'est bon. C'est bon.
Oui. Le problème, c'est que. Moi, je ne peux pas parler de questions techniques, comment gérer, comment ceci, etc. Parce qu'il faut qu'il y ait... on gère quelque chose qui est sur la table. On ne gère pas à partir de rien. On ne va pas venir, on va dire, allez, moi, je vais faire ceci, etc. Vous prenez, par exemple, en ce moment, il y a un événement qui s'est passé en Tunisie. Il y a ce monsieur, la Saïd... Kaïs, qui apparemment est venu de... c'est pas trop autre chose, qui a fait une campagne électorale avec 1500 euros, une R4, il s'assoit à table dans un café, il fait le meeting, qui n'a eu absolument aucune espèce de soutien ni de l'État, qui était presque considéré comme un hurluberlu, etc., et qui a raflé la mise en Tunisie. Il avait aussi un programme de rupture totale avec le système. Alors, quelle rupture et quelles sont ses possibilités, quelle est la force, etc. Parce qu'il y a un double discours aussi là-dedans. Respecter les engagements, respecter la Constitution, respecter ceci et faire ça. Bon, c'est vraiment un travail d'équilibriste très, très, très machin. Et connaissant plus ou moins la finesse, pour dire la finesse des Tunisiens, des partis politiques, pour ne pas dire la roublardise des partis politiques en Tunisie, ça ne va pas être une affaire simple. En Algérie, il n'y a pas ça. Il n'y a pas un programme politique, il n'y a pas une espèce de consensus sur des modalités en dehors de ce que vous dites, c'est-à-dire une transition qui va permettre ceci, qui va permettre cela. Moi, je pensais que la période de transition devait être non seulement... elle devait correspondre à quelque chose qui va donner un résultat déjà réfléchi. Quand on prend l'histoire du monde, hein, l'histoire des constituantes, en 62, quand ils ont fait la constituante, entre guillemets, ils ne l'ont pas faite comme... C'était des gens qui étaient sortis d'un mouvement de libération nationale qui s'appelait le FLN, qui avait éliminé tous ses concurrents, etc., par la force ou par autre chose, et qui se retrouvent à vouloir faire une constitution de calquer, certainement, un peu sur la France, un peu sur l'Égypte, un peu sur le truc. Et même celle-là, dans cette période-là avec la force, elle s'est faite dans un cinéma. Elle ne s'est pas faite à l'Assemblée constituante. Et Farhat Abbas, qui était naïf, pour ne pas dire plus, il croyait qu'il allait faire la constitution selon les normes traditionnelles, etc. Et on lui a amené une constitution, toute faite dans un cinéma par des militants ou par je ne sais pas qui. Et Il a démissionné, évidemment, parce qu'il n'y avait plus rien à faire. La constituante, par exemple, en France, elle s'est faite pendant la Révolution française, mais par des forces en armes. Par des forces en armes qui avaient un ennemi, qui avait un truc, qui était l'aristocratie, qui était l'Église, qui était... C'est-à-dire qu'ils ont identifié réellement. En Algérie, il y a une difficulté aujourd'hui pour... Je comprends qu'il y ait la difficulté, parce qu'en face, on n'a que l'armée. Et cette armée-là, elle a cette caractéristique d'être opaque. On ne sait même pas qui est qui, parce que Gaïd Salah, on crie Gaïd Salah, Gaïd Salah. Gaïd Salah, c'est un épouvantail qu'on met devant. Il y a 150 ou 200 Kmaqom derrière qui lui disent, bon, tu fais ça, tu fais pas ça, attention, ça, etc. Et ça a été prouvé en Algérie, contrairement à avant. C'est que cette fois-ci, c'est même pas des trucs qui se faisaient dans des conclaves secrets, etc. Cette fois-ci, il a été obligé de montrer à la télévision qu'il allait dans chaque région militaire. Et quand il allait dans les régions militaires, on te dit, il va vérifier l'état des armes, il va vérifier ceci. C'était pas ça. C'était pour s'assurer que ceci, que ceci, que cela. Et tant qu'il continue là-dedans, ça veut dire qu'il n'est vraiment pas sûr de lui. Il n'est pas... Il est pas. Donc, cette armée-là, elle est opaque. Elle est opaque. Elle a un organe, d'ailleurs, qui n'est pas l'organe officiel de l'Algérie ni quoi que ce soit, mais l'organe de l'ANP. Et celui qui dit un peu ce qu'il y a, c'est le Djesh, la revue le Djesh, où il y a le commissariat politique de l'armée. Et donc, de ce point de vue-là, c'est même l'ennemi lui-même. Et c'est comme une sorte de paravent. Il est derrière, on te montre Gaïd Salah, mais Gaïd Salah, c'est un fusible aussi. C'est-à-dire, là, maintenant, le Hirak, il dit Gaïd Salah, et ils vont le faire sauter d'ici 15 jours. Peut-être que c'est vrai, peut-être que je dis une prophétie, là. Allez, d'ici 15 jours, ils vont... Oui, ils vont le faire sortir, ils vont sortir un jeune, beau gosse, qui parle bien, etc., qui n'est pas, nanana, qui n'en a pas l'arbia, qui va parler, qui va ceci, etc. Qu'est-ce que ça change? C'est ce que je réponds un peu à ta question. Qu'est-ce que ça change? Entre Boumdian qui parlait l'arabe, tatabatata, bien que je connais des arabisants forts qui disaient qu'ils faisaient des fautes, il y a un Chedli qui ne parlait pas, puis un autre qui parle, puis un baratineur comme Bouteflika. Il n'y a que la méthode et la forme qui a changé. Il n'y a pas le fondement. Il n'y a pas le fondement. La Hogara dont vous parlez tout à l'heure, elle se manifeste parce que la Hogara, elle est palpable. Elle est palpable. Pourquoi? Parce que vous allez dans un bureau. Ben, vous le sentez. Vous allez acheter quelque chose, vous le sentez. Et le problème, c'est que il y a une hogra ou une malvie qui est par ricochet. Par exemple, quand vous voyez que vous ne pouvez pas acheter ce que vous voulez au marché, vous allez acheter des tomates, des alcadiques, etc. Je ne critique pas celui qui les vend. Mais un État qui n'est pas capable déjà de mettre de l'ordre dans tout ça, ça veut dire qu'il y a de bras comme Benetcom. C'est-à-dire qu'on te crée des situations.
Pour faire rupture avec ça, et dire non au système rentier. Ouais. Je ne sais pas si les Algériens sera d'accord pour dire non au système rentier. Peut-être que les Algériens sont libéraux et qu'on n'a jamais discuté entre nous justement de quel système on veut, etc. Et donc, cette rupture, peut-être qu'il faut commencer dès maintenant à discuter de ce qu'on essaie de faire ici. C'est aussi échanger entre nous. Et c'est bien que les débats soient ouverts et que les débats... commence à s'ouvrir en Algérie, sauf qu'il y a un blackout médiatique là-dessus. Peut-être que les Algériens discutent entre eux, en tout cas ceux qui sont en Algérie, et savoir qu'est-ce qu'ils veulent comme projet de société, ce que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'on en est capable de débattre paisiblement et tranquillement, transition ou pas transition, en tout cas de poser les choses, de faire l'analyse Moi, je ne crois plus aux partis politiques. Franchement, je n'y crois pas. Je pense que la société peut s'organiser. Les citoyens peuvent s'organiser d'eux-mêmes et arriver à une solution et à un projet de société, comme j'ai dit.
Ce sera peut-être l'avant-dernière, parce qu'on a quelqu'un d'Alger qui va nous appeler dans 5 minutes pour finir, hein, d'accord ?
Je réponds rapidement. Tu peux croire à ça, c'est légitime, il n'y a pas de problème. Mais simplement, si on est un peu observateur de la scène politique, il faut voir les éléments qui bougent. Par exemple, il y a eu le problème de l'UGTA avec Sidi Saïd, etc. Les travailleurs de l'UGTA n'ont pas été capables de lui donner un coup de pied pour sortir. Ouais. Ça, c'est un signe de faiblesse. Or, si les travailleurs, qui va bloquer l'Algérie s'il n'y a pas les travailleurs ?
On le verra le 28.
C'est ça le problème.
On le verra le 28.
On le verra, oui. Ouais. Ils te disent, on n'a pas été capable de faire un congrès. Mais un congrès, tu le fais Barra.
Dans la rue. Ouais.
Dans la rue, sous une tente où de Barra, c'est que va à Djelfa, va à Timimoun, fait un congrès. Tu n'as pas besoin de le faire à la maison du peuple, etc. Donc, il y a des faiblesses. C'est pour ça que je dis, il faut être réaliste. Il y a des faiblesses qui sont là. La deuxième chose, il y a eu un moment où les travailleurs de la... Juste un moment, il y a eu les travailleurs de la télévision qui ont manifesté. Il aurait fallu aller vers eux et aller parler à la télévision, à tout le monde. Alors, Selmiya, c'est aussi un problème. Je ne dis pas que c'est un problème, mais jusqu'à quand? Jusqu'où? Parce que les autres, s'ils voient que leurs intérêts sont réellement mis en cause, ils n'hésiteront pas à la violence. Ils l'ont toujours fait. Donc, voilà.
On a quelqu'un, parce que on avait peut-être revenir sur la conclusion juste après, mais comme quelqu'un appelle d'Algérie, donc on est obligé de lui donner la parole, là. Allô, allô?
Allô, oui?
Oui, bonjour, Aïssa.
Bonsoir, Aziz.
Oui, bienvenue sur les ondes de Radio Galère, là.
Je te remercie, mais la liaison est très mauvaise et j'entends très mal.
Tu m'entends pas?
Très, très difficilement.
Ah oui, d'accord, c'est bizarre, là. Nous, on t'entend très bien.
Voilà, là j'entends bien. Oui. Là, j'entends bien. Je voulais intervenir à partir d'Alger pour informer vos auditeurs de ce qui s'est passé la semaine écoulée. Tout d'abord, je parlerai des plaidoiries, du jugement des manifestants accusés de port d'emblème Amazigh. Ça s'est passé simultanément au tribunal de Sidi Mohamed d'Alger et également à Bab el Ouad. Tout d'abord, au tribunal de Sidi Mohamed, il y avait, on jugeait l'FTC, ce grand militant qui a ému la salle lors de sa prise de parole. Ça a été pour beaucoup un des héritiers, d'après son avocate, maître Richard Barthé, l'un des héritiers de Bni Hidi. Il a ému la salle, des applaudissements de toute la salle. Ça a été un moment fort de cette histoire algérienne qui est en train de prendre forme et de cette révolution qui bat son plein. Aussi, il y a un autre détenu politique qui s'appelle Khaled Oudihad, qui a également été qui a été le fait marquant de ces auditions. Rappelons que les avocates, il y a eu plus de 40 avocats qui se sont mis au service de ces détenus, qui les défendent gracieusement et qui ont à tour de rôle ému la salle. C'était des moments très forts, il fallait les vivre, et la presse nationale a détaillé en long, en large et toutes les plaidoiries de tous ces avocats-là. Aujourd'hui, bien entendu, la presse algérienne a relayé aussi relayera demain la manifestation d'aujourd'hui, la mobilisation algérienne citoyenne qui ne faiblit pas et qui reste aussi forte, pas comme les premiers jours, ne cachons pas le soleil avec un tamis, mais les Algériens, les Algériens qui aspirent à la démocratie et à la liberté sont là et restent mobilisés. Voilà ce que je peux vous dire sur cette semaine qui s'est écoulée très très brièvement. Si vous avez des questions, je suis à l'écoute.
Voilà, est-ce que quelqu'un parmi vous peut...
Oui, bonjour Aïssa, Amel de Marseille,
bonjour, Amel.
Du collectif
bonjour.
Pour une alternative démocratique et sociale.
Bonjour.
Qui, c'était pour vous demander, est-ce qu'il y avait du monde aujourd'hui et par rapport à ce qui s'annonce là pour la semaine prochaine, la grève du 28, le 1er novembre, quelle est la température, j'ai envie de dire, et quelles sont les revendications, parce qu'on parlait de revendications et de...
Exactement, les slogans aujourd'hui ont été très virulents à l'encontre de Ben Salah, le chef de l'État, qui a eu une séance de travail avec le groupe russe en présence de Vladimir Poutine. Donc les manifestants ont relayé cela. C'est inacceptable, l'attitude du pouvoir algérien qui se vautre face à Poutine a été relayé par les slogans. Gaïd Salah également, on a cité Gaïd Salah dans aussi les slogans d'aujourd'hui, rappelant qu'il a un niveau de CM1 ou de CM2 et qu'il ne pouvait pas être l'avenir de l'Algérie. Pour la mobilisation, je ne peux pas quantifier à l'heure actuelle le nombre des manifestants qui ont été de la place du 1er mai à la Grande Poste. Mais ce que je peux vous dire, j'ai eu des échos ici et là, et ça c'est en exclusivité à Radio Galère, j'ai eu des échos que au sein du pouvoir, on pense réellement à faire passer ces élections et aussi gagner la paix sociale comme le faisait Bouteflika auparavant à travers des prêts énormes, des prêts, on va renflouer les caisses des banques pour gagner la paix sociale et acheter la paix civile et pousser les gens coûte que coûte à voter le 12 décembre. Mais la mobilisation est telle que, je ne sais pas, il y a un bras de fer qui s'annonce, je ne sais pas qui sera le vainqueur. J'espère que cette révolution vaincra et j'espère que ces élections n'auront pas lieu comme je l'avais précédemment dit et répété.
Voilà.
Oui, salam Aïssa, on vous remercie de votre appel, mon ami. Dites-moi, je voulais juste savoir quelle était la réaction du peuple algérien en apprenant la candidature de Mihoubi, qui a été, je crois, déposée hier ou avant-hier, parce que il faut le préciser, Mihoubi était, je crois, le cheval partant et gagnant de Gaïd.
Il y a plusieurs chevals gagnants, il y a plusieurs mascottes, si je peux m'exprimer ainsi, qui pourrait représenter Gaïd Salah au sein de ces pseudo-candidats. On ne parle pas que de la candidature de Mihoubi, on parle aussi de celle de Slimane Barthélémy, on parle de celle de Oussama Wahid. Oussama Wahid qui a fait une déclaration quelque peu farfelue à la presse nationale, à la question quelle serait sa première décision s'il était... Et le président, il a dit, je chasserai l'ambassadeur de France en Algérie, comme si l'avenir de l'Algérie était uniquement l'existence de l'ambassadeur de France de son inexistence. Je pense que le peuple algérien fait fi de ces candidatures, il se moque sur Facebook de ces clowns et il n'a qu'un seul mot d'ordre.
Ça a été coupé.
Bah, il a un crédit limité.
Merci,
bon.
Ouais.
Voilà. Merci pour son intervention.
Merci à toi. Merci si tu nous écoutes là. On te donne rendez-vous et on te rembourse la communication dès que tu arrives ici à Marseille. Voilà. Voilà.
Ouais,
oui, voilà. Oui, donc du coup, voilà. Voilà, on va le rappeler plus tard. On arrive aux conclusions avec. Aux conclusions avec Mahdam Ziane. Alors, il y avait des questions sur l'après, hein.
Oui, moi je voulais.
Attends.
Vas-y. Oui, moi je voulais dire, il nous a rappelé que les 20 premières années depuis 62 sur le programme de Boumediene à l'époque. Moi, je me souviens, j'étais étudiant. Ouais. Et il a fait un programme qui est tombé à l'eau, comme la révolution agraire, la médecine gratuite, la chirurgie qui s'est cassé la gueule. Bon, moi, d'après mes souvenirs, hein, j'étais encore jeune, j'étais étudiant à l'époque. Mais j'ai remarqué une chose. Après 72, avec les partis qui étaient créés à l'époque en Algérie et qui étaient des pantins parce qu'ils n'avaient aucun pouvoir, aucun poids,
Après 88.
Après 88, pardon. Après 88, parce que déjà, depuis, il n'y avait qu'un seul, c'est le parti unique, c'était le FLN, et que ces gens-là, ils se sont servis. Et ils ont eu des richesses. Je me rappelle moi-même de l'histoire des sessions de biens de l'État où les gens ils ont applaudi, mais c'était que de la mascarade parce que ils ont vendu aux gens une bombe à retardement. Ils leur ont vendu des trucs où les gens après une année, deux années, trois années, se sont bagarrés pour ces biens-là. Entre temps, eux, ils ont pris des biens de l'État qu'ils ont achetés au dinar symbolique. Ça, c'était. Et ces gens-là, je pense qu'ils ne lâcheront jamais. Ils ne l'assureront jamais, ils ne vont pas se laisser juger pour ce qu'ils ont déjà, ce qu'ils ont volé. On ne va pas dire ce qu'ils ont pris, ils ont volé. Et c'est pour cette raison-là qu'on est arrivé à ce point-là où il y a un ras-le-bol, où, si vous voulez, ils ont tout rappelé sans rien laisser au peuple. Le peuple maintenant ne peut gratter, il n'y a plus rien à prendre. Ça c'est bien, vous nous avez rappelé, c'est ce que nous avons vécu quand on était jeunes.
Oui, c'est clair que quand ils ont distribué le domaine autogéré, et ils l'ont vendu, et peut-être que c'est une des causes de la montée de l'islamisme en Algérie, contrairement à ce qu'on raconte. Parce que dans la Mitidja et le Chlef, la vallée du Chlef, qui étaient les plus développés d'Algérie, parce que c'est là où il y avait les colons, etc., quand ils ont distribué selon trois critères. Une bonne partie, elle a été donnée à la nomenclatura. Moi, je connaissais quelqu'un qui travaillait avec moi, qui n'avait rien à voir avec le Filaha, etc., mais qui était certainement encarté quelque part, qui a eu 20 hectares dans la Métidja. À l'époque, on a même parlé de l'ancien colonel de la Wilaya 2, comment il s'appelle
Boubnider, non?
Hein?
Boubnider, non, c'est
non, pas... Non, pas Boubnider.
Ali Kafi.
Ali Kafi. On a parlé qu'il avait pris des machins, etc., etc. Et dans les familles qui étaient dans les domaines autogérés, c'est-à-dire ceux qui géraient les comités de gestion, il y a des parties à qui ils ont donné, des parties à qui ils n'ont pas donné. Et les gens, nous on se rappelle, parce que je ne sais pas si vous avez vu un documentaire sur Palestro, où il y avait quelqu'un qui montrait les terres de ses ancêtres qui ont été enlevées par les colons. Alors, les terres des ancêtres de certains tribus, etc., comme les Hadjot, comme les Dmoussa, etc., elles ont été distribuées par la suite au lieu de les rendre, puisqu'ils veulent distribuer, donc à les rendre aux propres. Ils les ont distribuées, etc. Et les gens, ça ne reste pas impuni.
Exactement.
Moi, je me rappelle chez nous, il y a des endroits qui appartenaient à la ferme du colon qui portent Arqob Flan, Timizer Flan, Alma Flan, qui portent le nom de, je ne vais pas dire les familles, mais qui portent le nom des familles. Et après, maintenant, il y a quelqu'un, des trucs comme ça. Donc les gens. Attention, il faut croire qu'il y a une mémoire. Il y a une mémoire. Quand vous voyez les enfants de Shuhada, par exemple, parce que là, il y a ce qu'on disait, le Hugara, mais elle n'est pas simplement ça. Par exemple, il y a des enfants de Shuhada qui en ont donné pendant 10 ans, 20 ans, 50 dinars par mois pour la famille, et des gens qui sont sortis, qui ne sont pas morts, qui ont pris des grands hôtels, qui ont pris des machins, etc., etc. C'est quoi cette histoire?
Justement,
on te dit, on est l'héritier, je reviens à ce que vous disiez, on est l'héritier de la glorieuse Hélène, etc. Tu n'es l'héritier de rien du tout.
Tu es le rien du tout. tu as hérité du travail de ces gens-là. C'est ça le problème.
Justement, c'est de ça que je vous parlais, parce que à l'époque, moi j'ai assisté à ça, à l'époque, les mairies, ils étaient coiffés par qui ? C'était par le FLN.
Ouais.
Par ces mêmes membres-là, que eux, ils ont mis même basse, ils contrôlaient comme ils voulaient. Ça, moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Et ils prenaient à qui ils voulaient, ils donnaient à qui ils voulaient. Et puis quand tu veux, par exemple, porter plainte, tu peux attendre 20 ans, enfin, ça c'est le minimum, bien sûr, en faisant disparaître quelques documents, et pour que tous ces gens-là qu'ils ont pris, et c'est contrôlable, on peut les contrôler, ça moi je peux vous le confirmer, parce que le cadastre algérien, il est sorti une fois en Algérie, c'était en 78. Parce que les gens qui ont des papiers avant 78, ils peuvent tous aller demander leurs droits.
Eh oui.
Et personne ne pourra rien contre eux. Voilà, ça c'est une information que je donne.
Mais juste pour un dernier mot, pardon, pour moi. Allez-y.
Moi je voulais revenir sur deux petits points vite fait. Tout à l'heure, la question de Amel, elle vous a dit qu'est-ce qu'on peut faire. Vous lui avez dit tant que le Hirak il n'a pas une structure, etc. Moi, je pense, je suis très optimiste, qu'on a une structure au niveau du Hirak, mais qu'il ne faut pas la faire apparaître maintenant, parce que la faire apparaître, faire les leaders qu'il y a derrière, je crois qu'il passerait un mauvais moment maintenant. Donc, c'est pour ça qu'il faut les laisser pour plus tard. Secondo, comme vous l'avez si bien dit, Gaït Salah, il craint. C'est pour ça qu'il fait les casernes d'une semaine à une autre, en allant d'une caserne à une autre. C'est juste pour tâter le terrain, pour voir si l'armée est derrière lui. Donc, étant donné, moi je pense, qu'il y a ce doute-là, ça veut dire qu'à l'intérieur, au sein de l'armée, il y a un petit quelque chose qui dérange.
Oui.
S'il y a doute, il y a quelque chose. C'est, comme on dit, la cause à effet.
Oui.
Voilà.
Conclusion, hein.
Pour le deuxième point, je ne vais pas répondre puisque vous, c'est le doute. C'est... Mais sur le premier point, moi, je ne suis pas d'accord. Si ce que vous dites est vrai, que le Hirak, il est structuré, mais qu'il ne donne pas, les gens doivent affronter la réalité. On ne peut pas avancer masqué dans une situation comme ça. Je ne sais pas si vous dites, mais le chemin des révolutions, il est parsemé de croix de tous les martyrs. Ce n'est pas un chemin fleuri, agréable, etc. Les gens, quand ils veulent, ce n'est pas au contraire. Il y a la chanson, des partisans. Si tu tombes, un ami sort de l'ombre. Eh bien, voilà, il faut. Si ça existe, il faut qu'ils aillent au charbon. Il faut pas. Alors on dit. Vive la guerre de libération, nos aînés, etc. Les aînés, ils ont été au charbon. Mais on n'a jamais été à armes égales avec l'ennemi. On n'a jamais été à armes égales, c'est clair. Mais simplement, tant que vous n'êtes pas là, le risque d'incompréhension devient de plus en plus grand. Voilà.
Pour la loi des hydrocarbures, le peuple il a été devant les assemblées. Sûr. Il a dit on veut pas des lois qui vont brader le pays. Ouais. Déjà c'est une première réaction.
Oui.
C'est une première réaction. Et peut-être la révolution n'est pas finie. On a peut-être encore des mois et des années devant nous qui vont faire avancer les choses. Moi aussi je suis rempli d'espoir. Hein. Et je pense que ça se construit de jour en jour et leader ou pas, c'est la conscience, c'est la prise de conscience. Je pense. La prise de conscience de chacun, syndicaliste, citoyen, jeune, femme, homme, etc., au jour le jour, à la pratique de cette révolution, qui va amener à se poser des questions. Demain, si le 28, on n'arrive pas à faire une grève, on se posera des questions sur nos syndicalistes, on se posera des questions sur nos travailleurs, on se posera des questions automatiquement sur ce qu'on est capable de faire ou pas, d'aller plus loin. Parce que manifester tous les vendredis, certes, c'est une très belle chose et c'est une belle révolution qui se passe. Mais, comme tu dis, il faut aller au charbon, mais passer à la deuxième vitesse. Mais on verra ce que ça va donner.
Les slogans, est-ce que ce n'est pas très héroïque Vous voyez les slogans, ce qu'ils disent. Le quoi? Les slogans d'arriver à dire système dégage, système assassin, c'est déjà quelque chose.
Oui, oui, oui.
Mais on va y aller tout doucement, on ne va pas aller. Nous, on ne veut pas qu'il y ait du sang sur, en Corse, sur la terre algérienne. On voudrait éviter tout ça.
Il n'y a personne qui veut ça. Il n'y a personne qui veut ça, mais moi, je suis convaincu que à moins de croire que ces gens-là, ils vont prendre leur valise, ils vont partir comme ça, tant mieux. Mais la confrontation, alors tout à l'heure on disait, ils ne vont pas lâcher, parce qu'il faut savoir ce qu'on dit. D'un côté, ils ne lâcheront pas, il y a tellement d'intérêts, il y a tellement de trucs, qu'ils sont là, les marchés grandioses, etc. Parce que Poutine, il sait très bien non seulement les marchés, mais les compromissions, les commissions, etc., qui sont derrière et tout. Donc, c'est des sommes assez importantes. Donc, soit les gens, bon, un beau jour, ils vont disparaître comme ça, pouf, du machin. Soit la confrontation est nécessaire, parce que, ou alors tu abandonnes son combat.
Non, mais la personne peut partir, mais le contrat, il reste, monsieur.
Le
contrat, il reste. Vous me dites, Poutine, il va se demander l'armement, etc. Le contrat, on le laisse avec Poutine.
Non, tu as
mais
pas
les
compris.
Personnes qui
parlent. Non, vous n'avez pas compris. Je vous dis, Poutine, on a beau lui raconter des blagues, lui, il connaît la réalité. C'est ça que je dis. Mais je dis que justement ces contrats-là, ce n'est pas les contrats en eux-mêmes, c'est tout ce qu'ils ont engendré comme gabegie, comme dilapidation, comme pot de vin, comme ceci, comme cela. C'est ça le problème. Et donc, de ce point de vue-là, moi je dis qu'il faut, il faut envisager toujours la solution la plus défavorable. Une fois si c'est favorable, tant mieux. Mais il faut toujours envisager la solution la plus défavorable. Voilà, je finis sur ça.
Oui, justement, non, moi je veux juste ajouter quelque chose. C'est pas par rapport au fait que s'il y a des leaders, s'il y a une structuration, donc il y a des loups blancs qu'il faut abattre à tout prix. C'est le fait que on est dans une situation où on est contre quelque chose. Mais il faut qu'un jour le peuple algérien, c'est-à-dire la population algérienne, soit pour quelque chose. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un véritable projet alternatif avec les gens qui sont dedans, c'est-à-dire des gens qui s'engagent à ce que ce projet alternatif soit réalisable. Donc c'est, la question est à ce niveau-là. Bon, maintenant, ils sont en train d'arrêter des gens. Hein. C'est-à-dire, il suffit de bien structurer ton discours, etc. Les gens commencent à t'écouter, hop, on l'arrête et on le met en prison. Mais l'état des rapports de force actuel permet d'espérer que demain, il faut qu'on ait quelque chose. Parce que un jour, les gens vont je ne sais pas, ils vont fatiguer parce qu'ils ne voient pas une autre, quelque chose à qui il faut adhérer. Hein. Il faut qu'il y ait un pacte d'adhésion quelque part, parce qu'on est en train de lutter contre, mais quel est le pour? Hein. Qui c'est qui proposera le pour ce peuple-là qui va vers ce qu'on appelle, on passe à un pas décisif quand on adhère à quelque chose que lorsqu'on on lutte contre quelque chose. Voilà. Merci, Madame Ziane. Tu as été aujourd'hui formidable. Tous les jours, tu es formidable, pas de souci.
Ah bon.
Voilà, non.
Non, pas.
D'accord. Non, tu es tout le temps formidable.
Aussi gentil, hein.
Merci, non, formidable. Je dis que tu auras l'enregistrement de l'émission. Il n'y a aucun souci pour ça.
Okay.
Et bien sûr, on reviendra. Tu reviendras ici à la radio pour d'autres émissions, surtout qu'il y a une situation qui évolue très vite. Peut-être que dès la semaine prochaine, quoi.
Okay.
Voilà. Merci. Voilà.
Deux minutes. Je voulais, enfin, on voulait, les membres du collectif voulaient souhaiter félicitations à Dida et à Youb pour leur mariage demain, qui sont connus dans le Hirak marseillais, et voilà, on est de tout cœur pour eux, et voilà. Et
ça,
c'est positif. Voilà, on prend une petite note. Félicitations, Mabrouk alaikum.
Voilà, donc on va terminer cette émission en disant un certain nombre de choses. Donc, on n'aura pas demain, on n'aura pas la conférence pour la simple raison, on n'a pas dit pourquoi, parce que M. Tahar Khalfoun est dans une incapacité physique soudaine, des soucis de santé, hein, pour qu'ils puissent se déplacer de Lyon jusque là. Et comme monsieur Adil Houari a toujours travaillé en binôme parce qu'il y a deux pendants dans leur discussion, à chaque fois que quand ils se déplacent, ils vont ensemble faire la conférence. Donc finalement, ils se retrouvent tout seuls. Il a préféré décliner l'invitation en essayant de reprogrammer contre monsieur Tahar Khalfoun, qui a une santé un peu précaire, pour qu'il puisse venir ici. Donc on s'excuse auprès de nos à qui on a envoyé tous les messages. On continue à envoyer pour dire c'est annulé. Par contre, quelque chose qui est sûr, donc ce dimanche là à 15h sur le Vieux-Port, hein, attention, je crois que l'heure va changer, hein, cette semaine, c'est le dernier week-end de septembre, d'octobre, donc ça va changer. Donc ce week-end là, donc rassemblement toujours pour le départ du système, c'est notre 36e dimanche ici à Marseille. Et chose importante, la semaine prochaine, donc le jeudi 31 octobre, ça c'est sûr, il n'y a aucun problème, il n'y a pas d'annulation, quoi que ce soit. Le jeudi 31 octobre à 18h, à 19h, au local de Mille-Babord, on fera donc la veillée, on va dire, la veillée du 1er novembre, comme ils vont faire à Alger, parce qu'à Alger, la nuit du 31 au 1er, il y a un appel national pour que les gens passent la nuit dehors, la veillée du 1er novembre. Donc nous, ici à Marseille, on va projeter un film en hommage aux solidaires du peuple algérien pendant son combat contre le colonialisme. Donc le film qui sera projeté à 19h à Mille-Babord. Le lendemain, à 11h, à Salon de Prov... le dimanche, n'importe quoi. Le lendemain, vendredi 1er novembre, à 11h, au cimetière de Salon de Provence, nous allons nous recueillir sur un des solidaires du peuple algérien, en l'occurrence Jean Tabé. Donc Jean Tabé, on sera un internationaliste, quelqu'un qui a été toujours dans les réseaux de solidarité jusqu'à la fin de sa vie. Il a été pour l'Algérie pendant toute sa jeunesse et même sa vieillesse. Donc nous allons nous rendre hommage à Jean Tabé le vendredi à 11h, le 1er novembre à 11h, au cimetière de Salon de Provence, et le dimanche à 15h, toujours 1er novembre à 15h, il y aura un rassemblement ou manifestation, peut-être sûrement une manifestation, comme il va y avoir une manifestation à Alger, donc ce vendredi-là, 1er novembre. Voilà, tout est dit, et on le répétera bien sûr pendant la semaine, quoi. Voilà. Merci pour votre attention et encore mille merci à Mahdam Ziane d'être passé nous voir et merci à vous toutes et tous. Radio Galère est toujours ouverte.
يما كتري من داوي ولادك راهم خارجين يمشي وعلى الحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية هاكل ورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين
اليوم الشعب ليبرال الجيري الشعب يلعب عشرة والسيستم ما فهموش كل سيزو يجيبها بارا ويماركي ما تحقروش عشرة سنين تدمر عشرة وينو مازل مش بعتوش وبربي هاد المرة وينو ناضي ما تفوتوش بلادي بكا وكدموع ميساج قاع المسؤولين يونا مارك رانا منكم هادو عشرين وحنا صابرين يا تزاير في الباين راه معمر يوم نسمع صوتي خلوني نهدر سلمي انا ما جيتش نكسر نقول الحق ما رانيش نخسر